Sport, c'est les meilleurs dans le tennis. Tu vas avoir les meilleurs conseils, puis tu paieras pas plus cher.
Puis en plus, j'achète local.
Fradette Sport, deux boutiques à Québec, Place de la Cité et Club Avantage. Pour plus de détails, fradettesport.com.
1, 2, 1, 1.
Je suis arrivé. Toujours à recommencer et recommencer. Pour combien de fois? Je suis arrivé, je reconnais l'endroit, l'odeur, la sueur qui coule sur moi. Attends-moi juste pour. We'll be right back.
On vient d'entendre Ricochet et la nouvelle chanson de Preoccupations. Ça va être sur l'album Arrangement qui sort en septembre 22. C'est la seule pièce qui est disponible pour l'instant, mais vous pouvez déjà précommander votre cassette ou votre t-shirt à l'effigie du prochain album, ce que je vous invite à faire. Pour le moment, on se parle de ce qui s'en vient ce week-end à Québec. La plupart des festivals seront lancés dans la fin de semaine du 17 et du 18 juin, que je ne vois personne se plaindre qu'il n'y a rien à faire ce week-end. C'est impossible de ne pas vous trouver au moins un show, généralement gratuit, à aller voir. Et je commence par ceux de la Fête de musique de Québec. La fête débute ce vendredi et... On va préciser que c'est pas un festival. Pourquoi je vous dis ça? Ben, si on remonte à l'origine de la fête de la musique, c'est en 82 en France là, que ça part. À la base, c'est pour célébrer le jour du solstice. Puis c'était une façon de rendre disponible la musique à tous les publics. On voit ça comme une manifestation populaire qui est gratuite où tous les genres musicaux sont réunis. Et c'est ce qu'on fait à Québec. La première édition ici a commencé avec le 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008. Alors cette année, à la fête de la musique, Chez est un partenaire et vous allez pouvoir voir quand même pas mal d'artistes du coin sur la scène Chez qui est au parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste. Je pense à Périmètre, Antoine Doré, Sandrine Masse. Donc, à partir de vendredi jusqu'à ce dimanche, je vous lance une petite rafale là, pour vous teaser un peu Sex Machine Octopus, Philbourg, Collation, Mal aimé Soleil, vous connaissez Blaze Velvet, Blaze Veluto Collection. Bon, on voit que je pense déjà au drink. Beat Sexu, Jérôme 50. Et tout ça, c'est gratuit. C'est extérieur. Pour la programmation complète, rendez-vous sur le site de la Fête de la musique de Québec. Mais c'est certain que vous n'allez pas vous ennuyer ce week-end. Si vous cherchez quelque chose pour ce soir, le 15 juin, c'est Live Fallback qui est à l'Impérial à 20h30. Il reste encore des billets. N'hésitez pas à vous les procurer à la porte. Outre la fête de la musique, Chiz, ce week-end, sera au Festival de la chanson de Tadoussac, qui est du 16 au 19 juin. On va d'ailleurs animer deux émissions live à partir du restaurant Le Bateau. C'est pas pour rien que ça s'appelle Manque pas le bateau. C'est une collaboration avec Choc, donc vendredi et samedi à partir d'11h, on va être en direct directement de Tadoussac pour vous faire vivre le festival avec nous. J'ai déjà l'intention d'aller voir Marilyn Léonard, les A-Babies, Thierry Larose, Clay and Friends. Pourquoi pas les Louanges, Valence et Lisa Leblanc, tant qu'à y être. Alors, n'hésitez pas à s'intoniser chez vendredi et samedi dès 11h. On a une couple de petites surprises pour vous là, avec des beaux invités directement de Tadoussac. Toujours à Québec, c'est Folk Expression le 17 et 18 juin. C'est la 4e édition de ce festival folk-là qui n'a pas vraiment pris de pause pendant la pandémie parce que la plupart des spectacles, ben, ils sont extérieurs. Et ça, si vous voulez y assister, c'est dans le coin du Vieux-Port, du Petit-Champlain et de la Place Royale. Les gros noms là, pour l'instant, Michel Pagliaro, Steve Hill, Sarah Dufour, Bosco Baker vont être là pour jouer pour vous. Alors ça, c'est ce week-end seulement sur 2 jours. C'est les Franco, c'est Mural, c'est aussi le Festival Jazz de Québec. Il s'en passe des choses. Du côté du Festival de Jazz de Québec, en tout cas, là, vous avez une bonne partie du mois de juin pour aller voir des shows. C'est la 4e édition. Vous avez jusqu'au 5 juillet pour voir plus de 80 spectacles et 260 musiciens et musiciennes, que ce soit en salle ou à l'extérieur. C'est vraiment gros cette année du côté du jazz. Vous allez même pouvoir entendre Karl Mayotte, le bassiste qui est la révélation Radio-Canada 2020-2021. Qui va faire un spectacle spécial à l'Impérial Bell avec Marie-Claire Linteau. Puis si vous êtes fan de Nina Simone, tout comme moi, qui est quand même une figure iconique là, du monde du jazz, ben, il y a Valérie Clio qui présente un hommage en primeur à Nina Simone aussi pendant le Festival de jazz de Québec. Je vous lance ça toujours en rafale. Il y a Mural qui se termine aussi ce week-end du côté de Montréal. C'est la 10e édition. Il y a pas que de la musique, là. C'est vraiment pour célébrer le mouvement international d'art urbain à Montréal. Donc, si vous voulez voir des artistes faire de l'art vraiment visuel, là, du graffiti en direct, c'est possible. Il y a de la musique, des expos, des conférences. Ce soir, c'est Claude Pelgag si vous êtes dans la métropole et Thierry Larose. Finalement, ce que je souhaitais vous mentionner dans les petites actualités musicales de Québec. On a les copains de chez Lunatic, oui, qui viennent de signer avec Ambiance Ambiguë. Selon Antoine Bourque, là, ils sont passés du rêve à l'honneur cette semaine quand ils ont pu nous l'annoncer. N'accordez pas vos guitares ce soir, leur dernier single passe en boucle dans ma tête depuis un moment. Alors, cet été, ils sont en studio, mais on pourrait, semble-t-il, prévoir une tournée au printemps 23. Oh oui, donc cette signature quand même est annonciatrice de bonnes nouvelles. Et puis en ce moment, ben ils sont en studio. Alors, c'est possible qu'il y ait d'autres nouveautés, comme on en a récemment entendu, du côté des copains chez Lunatic. Pour le moment, on a une petite exclusivité chez et oui, vous avez sûrement entendu parler du projet d'Ultraviolette qui est sorti récemment, Je l'ai laissé, son tout premier single. C'est une autrice, compositrice, interprète de Québec et elle collabore cette fois-ci avec Favelle. Vous avez aussi entendu parler de ce projet-là. C'est une chanson par mois que Favelle sort. Les dernières ont été en collaboration avec Mélo. Mais cette fois, c'est Ultraviolette qui est l'interprète. On nous a dit qu'elle peut faire 4 octaves, qu'elle l'a pas niaisé pour aller dans les aigus. Elle a pu vraiment se lâcher lousse en studio. À la base, là, ces deux-là se sont rencontrés grâce à l'ampli, notamment, puis au Festival de la chanson de Granby. C'est le début d'une collaboration. En tout cas, on espère qu'ils vont pouvoir produire autre chose ensemble. Il y a un petit quelque chose de Prince, très chroméo, funk des années 80. Oui, donc Ultraviolette était toute désignée pour être l'interprète de cette pièce-là. Une chanson qui va parler, bon, de relations toxiques, c'est au goût du jour, de s'oublier dans le désir des autres, puis pas répéter les mêmes erreurs idéalement. Alors, en exclusivité, parce que si vous voulez réentendre la chanson, il va falloir attendre à vendredi. Voici, sur les ondes de chaise, Pente glissante.
Suive-moi qu'on se fuit, béni soit le déni, où est-ce qu'on s'oublie? Suive-moi qu'on se fuit, béni soit le déni. Se taire un peu mieux, le jeu se joue en deux. On refait connaissance, tout semble faire du sens. On danse sur un plancher qui penche, on se fait l'amour.
Vous êtes de retour sur les ondes de Chiz pour Chérie, j'arrive, l'émission du retour. Je reçois Émilie Lapointe parce qu'on va se parler de théâtre. On est allé voir la pièce Singulière à la Bordée. Émilie, si vous en avez déjà entendu parler, elle est rédactrice en chef de l'Impact. C'est peut-être pour ça que vous la connaissez. C'est aussi une autrice, l'ancienne chef de Pupitre aux Arts, une cat lover propriétaire de Béchamel, oui. Et c'est aussi quelqu'un qui a un regard critique aiguisé. J'apprécie toujours sa façon de voir les choses et de les commenter. Alors, ça me fait très plaisir de la recevoir en onde. Allô, Amy.
Salut, Andréa.
Comment ça va?
Bien,
très bien, merci. Alors, on s'est croisés à l'aborder hier. C'est un hasard, ça tombait bien. J'avais aussi envie qu'on parle de la pièce en onde. La pièce est là jusqu'au 29 juin pour les gens qui souhaiteraient aller la voir. Elle avait déjà été présentée auparavant, mais la pandémie avait un peu interrompu les représentations. Alors, texte de Maxime Beauregard-Martin, mise en scène d'Alexandre Fecteau, qu'on connaît super bien à Québec pour Hôtel Dieu et entre autres. Amy. Heure de vie.
Comment j'ai trouvé ça? Bon.
Oui. Comment as-tu trouvé Singulière?
Je t'avouerais que je partais quand même avec. Bon, après ça, je sais que je suis un peu distancée sur les tests que je vois, mais je partais somme toute avec une appréhension positive parce que je me suis dit que c'est autre simple que c'est une pièce de femme, donc je vais aimer ça.
Oui, parce que peux-tu d'abord nous dire un peu de quoi ça parle pour les gens qui ne seraient pas encore au courant?
Ah, mais ça, c'est une bonne question de quoi ça parle.
ça va faire partie des critiques.
Parce qu'après 1h45, ça parlait de beaucoup de choses, mais ça parlait de peu de choses en même temps. Le sujet de base, bon, c'est la vieille fille, l'espèce de mythe de femme célibataire, mythe c'est le mythe. Est-ce qu'il y a vraiment un mythe autour de ça? Mm-hmm. Aussi, c'est une autre question. Est-ce qu'il y avait déjà un propos à la base? Aux questions. Mm-hmm. Mais bon, c'est la femme célibataire après 30 ans. C'est le sujet qui a intéressé Maxime Beauregard-Martin. C'est du théâtre documentaire, il faut le dire.
Oui.
C'est peut-être pas assez appuyé, là, d'ailleurs, que c'est un théâtre documentaire. On ne sait pas si c'est simplement une espèce de... Parce que, bon, dans la pièce, il y a l'air à la question d'un documentaire, mais c'est plus est-ce qu'on est dans la fiction, est-ce qu'on est dans la réalité. C'est
pas si évident que ça. Bon,
c'est pas si évident que ça, contrairement à disons... tout inclus qui était au pire au premier acte l'année dernière, qui était sur les CHSLD, en fait, sur les centres, les RPA, où la démarche nous était présentée dès le début. Mm-hmm. Là, c'était pas le cas. Après ça, c'est pas ça qui était dramatique, mais je sais pas si c'était une critique de l'image qu'on se fait de la vieille fille, si c'était un homme dans la vieille fille, si c'était un... Finalement, on fait un homme, mais dans le fond, tout le monde se sent seul dans cette pièce-là.
C'est ça, c'est qu'on est certain du thème, mais peut-être pas certain de l'objectif de la pièce, du message, de ce qu'on est supposé en retenir.
Je pense qu'il y avait probablement une espèce de idée critique du discours qu'on peut avoir autour des femmes célibataires après 30 ans, entre autres avec les espèces d'extraits d'archives de personnes dans les 70 qui... sont évidemment super misogynes. L'époque étant ce qu'elle est. Après ça, je t'en ai parlé là, je t'ai écrit en faisant la tête, on n'a pas trop voulu s'en parler là, pour pas trop brûler notre critique, mais moi, si je vais voir une pièce à propos de la réalité des femmes, ben j'ai pas envie de me la faire raconter par un homme.
On aurait pu s'attendre à ce qu'un homme s'intéresse peut-être aux hommes célibataires dans le cadre du théâtre documentaire?
Mais peut-être au moins que, tu sais, puis là aussi, tu sais, bon, mettons, il veut faire le texte, fair enough. Mais surtout, son metteur en scène, c'est aussi un homme. Fait que là, tu sais, oui, c'est des témoignages, mais reste que comment il a rassemblé ça, comment il a coupé ça, puis on s'entend que tout est dans la sélection des informations, dans la présentation des informations.
C'est teinté de son regard à lui, là.
Ben, absolument, puis c'est prendre la parole pour des gens. Finalement, je sais qu'il n'y avait pas de mauvaise intention puis qu'il voulait justement donner la parole, mais je peux pas être toi-même le traducteur. Puis je sais qu'il, dans la pièce, il s'est fait un propre personnage qui est joué par Sophie Thibault, puis qui fait comme « Ah oui, je risque d'avoir des gens un peu rétracteurs à ce que ce soit un homme, t'sais, c'est pas grave. » J'étais comme, tu sais, il est parfaitement conscient de ça, mais il a quand même décidé de... Bon,
d'aller de l'avant quand même.
d'aller de l'avant puis d'avoir une mise en scène aussi qui est masculine. Ça, ça m'a quand même dérangé. Là. Déjà, je partais pas. J'étais déjà pas
une partante. Une appréhension?
Mais au début, je pensais que la mise en scène. En fait, mais c'est l'assistance mise en scène qui était assurée par une femme. Du côté de la mise en scène, j'ai quand même.
Oui, parce que c'était une prouesse technique. Ça, du côté de la mise en scène, Alexandre Fecteau, on le connaît quand même pour ça. C'était filmé, diffusé sur grand écran. Les titres des actes, si on veut, étaient aussi apparents dans des éléments du décor. Fait qu'on avait un petit peu l'impression d'assister à un film au théâtre, si on veut. Puis les comédiennes ont vraiment dû jouer le rôle de caméra woman en même temps, là.
Oui, ça, c'était prouesse, en tout cas, au niveau logistique, déplacement sur scène, etc. Puis c'est pour ça, là, la conception vidéo, je pense que c'est David Bilcar qui l'a fait, qui a vraiment fait une très bonne job. Après ça, je sais, on dirait que la caméra, là, au théâtre, c'est le new thing. Je pense que dans ce cas-ci, c'était un peu trop, au sens où, ben, je peux compter sur les doigts de la main le nombre de fois que j'ai regardé la scène pendant la pièce.
C'est vrai que l'écran... Oui, moi aussi, mon regard était quand même plutôt attiré vers l'écran. C'est ce qu'on est habitué de regarder de toute façon, fait qu'on dirait que j'oubliais un peu la présence des comédiennes en chair et en os. Là.
Oui, absolument. On avait l'impression d'être plus dans un espèce de making-of d'un documentaire, une espèce de vision qui passe après Télé-Québec à 22h après le documentaire en tant que tel. Je pense que ça aurait été utile de peut-être mettre l'écran ailleurs, de faire plus petit, d'alterner aussi. Là, c'était, je trouvais ça lourd à un moment donné où ça devient une espèce, de voix toujours en écho, celle qu'on entend sur scène versus celle qu'on entend à l'écran.
Oui.
Ça devient un petit peu, cacophonique. Je pense que, on en parlait tantôt du fait qu'il a voulu mettre vraiment beaucoup d'éléments, mais au final, il a parlé de rien, en voulant parler de tout. Puis je pense qu'il aurait dû limiter son nombre de personnages à son nombre de comédiennes.
Oui, parce que c'est vrai que ça a couvert large. On a parlé d'adoption, de grossesse, il y avait le mariage, la religion, la spiritualité, les agressions sexuelles, les applications de dating. Donc, au final, on a parlé de beaucoup de choses, mais comment elle se sent, la vieille fille, ça, c'était différent. Est-ce que l'âge, le choix de l'âge t'a dérangé en ce sens où on n'a pas parlé des vieilles filles de... Bon, puis je peux pas croire que je dis ce mot-là, là. Mais des femmes célibataires dans la vingtaine ou dans la cinquantaine, la soixantaine, il y avait une tranche d'âge vraiment ciblée entre 30 et 40 parce que, ben, comme si c'est là où la femme devrait être en couple, tu sais.
Mais parce que c'est le moment de c'est l'âge en ce moment où on pense que c'est le bon moment pour fonder une famille. Ça fait l'habitude après le travail, ramasser un petit peu d'argent, s'acheter un condo à Limoilou, puis là, c'est le temps de mettre des enfants sur terre.
Ouais.
Je trouvais que. Et justement, il n'y avait pas. En fait, je trouvais que toutes les femmes célibataires de 30 ans et plus qui étaient présentées se ressemblaient parce qu'il n'y avait pas de posture, par exemple, de je suis célibataire, mais moi, c'est que je ne suis pas une personne de couple, c'est pas ça que je souhaite.
Oui,
c'est tout un. Je veux me caser, mais je ne me case pas. Pourquoi personne ne m'aime? Puis je trouvais ça.
Je suis contente que tu en parles. Moi aussi, j'aurais aimé voir un personnage. Célibataire, j'allais dire vraiment par choix, parce que c'est sa préférence, qu'elle n'a pas envie de partager sa vie avec quelqu'un.
Oui, exactement. C'est justement le personnage de. Bon, qui décide d'avoir un enfant par elle-même. Je pense que ça aurait été un bon endroit, justement, pour pousser le fait qu'elle, le modèle de la famille, pour elle, ça ne va pas en couple, nécessairement. C'est plus comme, ah, ben, c'est pas que j'ai trouvé personne, fait que je vais adopter toute seule, tu sais.
Ouais.
Mais, à part son personnage à elle, qui était un peu plus. Qui assume un petit peu plus la posture de célibataire, encore là, très, très faiblement. Je trouvais que les personnages ressemblaient beaucoup dans leurs enjeux.
C'est vrai.
Justement, peut-être parce que leurs propos étaient tellement cacophoniques qu'on n'arrivait pas à s'attacher aux personnages, à les distinguer, à leur voix. Puis, tu sais, on va se dire, là, c'était quand même des personnages très, très, très caricaturés, moi, je trouvais, là. Parce que j'ai l'impression qu'on a voulu retenir juste les gros traits, puis qu'on n'est pas allé tellement dans la complexité. Puis que j'ai l'impression, là, d'assister. Oui, un show de Lise Dion, mettons.
Ah!
Mais mise en scène par Jean-François Mercier.
Wow! OK. Hey, ben écoute, parce que toutes les critiques que j'ai vues sur ce show-là sont élogieuses. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir ton. Ouais, complètement l'autre côté de la médaille. Là.
Mais je pense que. Puis on va se dire, je pense que les critiques sont très, 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 très complaisantes en général. puis qu'on a de la difficulté. Après ça, moi, je suis peut-être un petit peu assez en général aussi. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que parce que c'est engagé, on ne va pas se poser de questions outre un que c'est engagé, ça parle des femmes. Mm-hmm. Mais on ne se pose pas la question, est-ce que ça en parle bien, les femmes? Est-ce que sur le point de vue théâtral, c'est une proposition qui est intéressante?
La manière,
ouais. Est-ce que, tu sais, on fait comme, ah, c'est le fun, ça coche des cases sociales. Mm-hmm. Puis on va se dire, il y en a qui ont été très, très mal cochés. Le trigger warning, le bout sur les agressions sexuelles, à mon avis, était absolument scandaleux.
C'était apporté
comme ça, mm-hmm. sans aucune espèce d'amorce, sans aucune désamorce après. Mm-hmm. Puis qui était même la mise en scène comme une espèce de... Je trouvais la déclaration quasiment parodique. Puis j'ai trouvé ça vraiment... J'étais super mal à l'aise.
J'avoue que pour cette séquence-là, ça m'a pris un petit 5 minutes avant de réussir à revenir dans le show. Là. Je suis partie un peu dans ma tête après ce segment-là sur les agressions qui aurait peut-être pu être amené d'une autre façon.
Juste amené, ça aurait été bien.
Oui, juste amené, c'est ça. En effet, j'ai été prise par surprise.
Les choses.
Ouais. Mais, j'ai passé un bon moment, malgré tout. Moi. Il y avait de l'humour, j'ai aimé la mise en scène. Ça, je trouve ça fascinant de voir ce qu'Alexandre peut faire. Est-ce que, malgré tout, Amy, tu as eu du plaisir, tu as passé une belle soirée, tu recommanderais la pièce ou on passe? Là, parce que ça vient de commencer, là. C'est là jusqu'au 29.
Après ça, moi, j'ai pas passé un bon moment. Mm. Mon ami journaliste non plus n'a pas passé un bon moment. J'ai passé un bon moment à le regarder pas avoir un bon moment.
Ah, bon.
mais après ça, la salle était hilare. Mais oui, je pense pas que ça s'adresse à un public. Je recommanderais pas un public étudiant.
OK.
Je pense que, tu sais, pour être franche, ça s'approche du théâtre d'été. Mais.
OK. Bon.
Pour les fans de théâtre d'été, ça peut être une recommandation, mais c'est. Le point quand même positif, c'est que les comédiennes ont fait vraiment un très, très bon travail.
Ah, ça, oui, vraiment.
Et dans leur jeu, et dans leur. Parce qu'il y avait tellement de matériel à livrer.
Vraiment.
Que malgré tout, c'était. En fait, je trouvais que les seules nuances étaient apportées par les comédiennes.
C'est vrai.
Et non par le texte.
Mmh.
Puis leur maîtrise, justement, là, de. Hey, c'est une logistique de dingue, là, les didascalies, les déplacements, les outils technologiques, les. Qui ont vraiment été superbes.
Oui, il y a de la rénovation qui se fait sur scène. Là, je veux dire, il y a carrément de la tapisserie qui se pose. Là, fait que...
c'est vraiment effectif. Puis j'ai l'impression que c'est un espèce de casse-tête puis qu'il ne faut pas que tu manques un morceau parce que sinon, ça a comme un effet domino. Là. Puis j'ai trouvé Sophie Thibault très, très bonne. Mm-hmm. Frédéric Bradet aussi dans justement le rôle de la mère qui adopte seule. Le trois autres étaient bonnes, mais c'est les deux performances qui m'ont le plus marqué. Et si une recommandation à faire, ce serait justement pour voir leur jeu à elle, puis pour la conception bio, qui est quand même extrêmement bien faite, puis qui a demandé un travail absolument colossal.
Mmh. Ça, oui. Émile Lapointe, merci pour ta critique sincère, juste et précise. Ça me ferait plaisir la prochaine fois d'être assise à côté de toi pour une pièce.
Ainsi. Ah non, je te conseille vraiment pas. Oh, Seigneur.
Je pourrais te regarder passer un mauvais moment.
Pour ça, je suis la bonne personne.
Excellent. Alors, je te remercie beaucoup, Amy. De notre côté, on part en pause et au retour, on parle à Louis-Olivier Pelletier avec l'impro pour les 10 ans de Turbo. Merci encore, Amy.
Merci. Bye.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Cet été, les capitales de Québec sont de retour sur les ondes de Chiz 94.3. Tous les matchs à domicile vous seront présentés sur le site web du chiz.ca. De plus, les matchs à domicile du jeudi au samedi vous seront aussi présentés sur les ondes du 94.3 FM. Cet été, Chiz 94.3 et les Capitales forment une équipe gagnante.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3.
Shiz.
Oh yeah, Shiz.
Pour le meilleur beat, Beatnik Show, man. T'as le dit, c'est malade.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Le soleil et la chaleur du mois de mai en font le moment idéal pour bouger à l'extérieur. Que vous soyez marcheur ou coureur, de type asphalte ou sentier, chez Pradette Sport, nous avons un grand choix de vêtements et de souliers pour la course et la marche, en plus d'une équipe de spécialistes pour vous conseiller. On a même un tapis roulant pour vous permettre d'essayer avant d'acheter. Vous préférez magasiner en ligne? Tout est disponible sur notre site. Pour la course et la marche ce printemps, faites un arrêt chez Pradette Sport, place de la Cité. PradetteSport.com.
On est de retour sur les ondes de Chiz 94.3 à Chérie, j'arrive. C'est le moment de parler improvisation et j'ai un invité de marque, c'est-à-dire Louis-Olivier Pelletier. Bonjour!
Coucou!
Coucou! On te reçoit parce que c'est les 10 ans de Turbo.
Oui.
Je suis allée assister au match d'impro.
Bon. Le match?
Ah ouais, oh, j'ai dit match! Ouf! Tu vois, on va pouvoir en parler à la soirée d'impro vendredi passé. C'était ma première présence à l'Improdôme.
Ouais.
On va pouvoir en parler d'ailleurs. Bon, c'était vraiment pas un match. Bon, Louis-Philippe, présentation.
Louis-Olivier, tableau!
Louis-Olivier, Pelletier, attends, en fait, ça part mal!
Oui!
Wow! OK. T'es improvisateur,
ouais.
Comédien,
ouais.
Animateur.
Aussi.
Qu'est-ce que je vais manquer dans ta bio? Parce que je suis pas avec deux prises à manquer.
Je suis développeur d'applications web aussi.
Excellent!
Ouais.
Ça fait 20 ans que tu baignes dans le monde de l'improvisation.
Ouais, même un peu plus. Ça va faire 26 ans cette année, je pense.
Wow!
Ouais.
Ça a parti comment pour toi, ton amour de l'impro?
Secondaire 1. Ça, c'est en 1997.
OK.
Ouais. 96-97. Il y avait une pratique d'impro dans le corridor de l'école, faite expressément pour recruter des gens. Puis là, moi, je faisais des tours de corridor. Il y avait l'auditorium au centre de l'école, Compagnons de quartier, Collège des Compagnons, pour ceux qui connaissent. Puis Olivier Godet-Savard, qui était le coach à l'époque, venait une pratique. Puis là, moi, je suis rentré sur une impro, arrêter les gens en faisant arrêter de faire des sketchs dans les corridors. Puis là, ils me trouvaient ben willing, pas nécessairement drôle, là, parce que je cassais leur fun, probablement. Puis il m'a dit, ben, tu te présenteras mardi prochain sur l'heure du dîner au Carrefour.
Ouais.
Fait que j'ai commencé l'impro comme ça, puis j'ai jamais arrêté.
C'est comme ça que ça a parti. OK.
Ouais.
Là, j'ai dit match, et puis j'aurais pas dû dire match, là.
C'est correct.
Parce que ce qui est spécial du côté de Turbo, c'est qu'il y a pas de vote.
Pas de points. Pas de pénalité.
Pas de caucus. Bon, pas de pénalité. Des fois, tu donnes des petites conséquences aux improvisateuristes, j'ai l'impression.
C'est rare. Mais quelque part, en même temps, je dirige le show. Là. Je fais ce que je veux. Quand j'ai l'impression que ça peut être bon pour le show, je le fais. Mais, mettons les pénalités d'un match, ça m'énerve. Là, le temps que tu prends pour expliquer la pénalité, si c'est pas au nom du spectacle, c'est vraiment pour comprendre. Je sais pas, là. Je me suis tanné de ça, en fait. Là. Ouais. Ça fait longtemps que je le fais. Puis moi, je suis rendu à un point où j'ai envie de jouer à l'impro. J'ai envie que même les shows d'impro que je vois, ça soit juste de l'impro, ça soit juste des scènes, que ça soit pas tout le temps de la mise en scène.
Pas de la technique.
C'est ça, ou des procédures, ou je sais pas trop, là. Moins il y a de procédures, plus je suis heureux.
Est-ce que c'est quelque chose dans ton parcours d'improvisateur à toi qui te heurtait?
Non, pas nécessairement. Pas que ça me heurtait, mais tu sais, à l'époque, là, ici, à la Ligue universitaire d'impro, on jouait, on était 6 sur le banc pour un show qui durait 2 heures. Fait que des fois, tu pouvais rester 3-4 impro à pas jouer parce que tu veux pas toujours faire les troisièmes entrées pour laisser du temps aux autres. Mais si tu regardes les statistiques des ligues, je sais pas s'ils tiennent encore, là, mais j'étais le pire en matière de troisième entrée. C'est moi qui avais le plus grand nombre d'impro joués tout le temps parce que je voulais tout le temps jouer. Fait que je préfère aller jouer dans des shows d'impro où il y a vraiment moins d'improvisateurs qui sont impliqués puis que tu finis le spectacle puis tu es épuisé parce que t'as joué. C'est ça.
Voilà. Qu'est-ce que ça change pour les joueurs dans ta ligue qu'il n'y ait pas de caucus?
Qu'est-ce que ça change? C'est que ça fait du jeu plus instinctif. Ça fait que c'est pas des improvisateurs qui sont latents. Ben, mettons que je l'entends par dans les cours d'impro que je donne.
Aussi,
mais ouais, tu sais, un improvisateur latent pour moi, c'est quelqu'un qui, sur le caucus, va se faire dire, OK, quand Jean va rentrer dans l'appartement, il va déposer son manteau sur la patère et là, on va sortir du garde-robe, lui crier bonne fête. Mais Jean, lui, sur le caucus, il a entendu, quand Jean va s'étendre à terre, fait que là, Jean, lui, rentre dans l'appartement, fait ce qu'il a à faire et s'étend par terre, puis là, tu vois 4-5 zoufs dans un garde-robe qui bug, qui font, mais là, il fait pas ce que le caucus était censé être. Puis là, ça fait une impro super lente des gens inquiets, l'anxiété grimpe, la salle le sent, le moment est dur, l'impro est plate, il y a un retard de jeu, la pénalité donne une pénalité. Tu sais, je sais pas. C'est plus simple de rien savoir puis de juste jouer avec ton instinct que de faire une espèce de dictée trouée qui a plus de chances de planter que de réussir.
C'est vrai.
Voilà.
J'ai eu l'impression aussi que les joueurs avaient beaucoup de plaisir, qu'ils s'amusaient.
Je leur souhaite.
Ça paraît. Public aussi que tu impliques dans le jeu.
Énormément. Autant pour leur rassurer, là, rassurer ces gens-là que le spectacle est improvisé.
Ouais.
Mais parce que ça sert à rien de trop préparer un show. Je préfère y aller avec ce qui se passe là dans le moment présent.
Ouais.
Fait que autant on va faire comme t'en as subi les foudres de moi en tant que maître de cérémonie.
Je me suis retrouvée sur scène,
malheureusement. De te faire monter sur scène, de te faire expliquer un brin de ta vie, puis on s'inspire de ce petit bout-là. Tu sais, c'est pas des... ça me fait rire, moi. C'est pas des catégories, mais c'est des catégories. C'est pas des contraintes, mais c'est des contraintes. Puis si on se prend pour des intellos, on va dire que c'est des tremplins créatifs. Fait que c'est ça. Tu sais, je sais pas, c'est une grosse joke. J'ai juste envie de faire, tu sais, dans ce show-là, du moins, j'ai juste envie de trouver des mécaniques rigolotes qui vont être plus grosses que le talent des joueurs. Puis ça, je le dis souvent en début de show, en loge, là, je leur dis, ben, essayez pas de battre la machine parce que la machine va vous rattraper. Parce que les jeux sont compliqués, pas pour rien, c'est justement parce que ça va créer un effet comique, puis le public va aimer ça de voir des improvisateurs rusher à essayer de se contenancer puis de pas perdre la face.
Oui.
Voilà.
Toi aussi, tu te mets à risque dans un sens parce qu'il y a une impro, notamment, je pense à celle où on écoute la radio, puis les joueurs doivent s'inspirer de ce qui va se dire à la radio, tu sais. Pour toi, en tant qu'animateur, t'as aucune idée de ce qui s'en vient au prochain poste.
Non, le plus gros risque, je pense que c'est que je me foule un pouce là, en tournant les postes de radio. Mais à part de ça, t'sais, si ce qu'on pogne, c'est pas bon, ben on n'est pas obligé de jouer avec non plus. Il y a comme de quoi dans l'impro qui dit qu'il n'y a pas de mauvais thème, il y a juste des joueurs avec des mauvaises intentions. Mais en même temps, si le thème est poche, là, si mettons le jingle radio qu'on allait pogner, c'est pas bon, ça tient un propos qui n'a pas de sens, on n'est pas obligé de le faire. Là. On n'est pas en parachute, là. On n'est pas en chute libre sans arrêt. On peut clairement peser sur pause. Puis, c'est arrivé là, que l'impro était plus bonne, mais on l'arrête. Là, puis on le dit qu'elle était pas bonne, puis on trouve ça drôle qu'elle était pas bonne.
Le temps aussi n'est pas compté.
Il n'y a pas de temps de compter. Il y a pas de, c'est 12 impros, c'est 6 avant, c'est 6 après. Il y a des shows où on a fait 8 jeux seulement, il y a des shows où on a fait 15. Il n'y a pas de...
Tu y vas au feeling.
C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est un des shows qu'on fait. Il y a d'autres shows qu'on fait où on fait 4 impros de 25 minutes. Puis là, je me lance dans d'autres genres de projets où on joue avec un gros divan pendant tout le show.
OK, une seule impro, une longue.
J'aimerais ça que ça soit une seule impro. Mais après ça, si on a l'impression que l'histoire est finie, on essaie de voir un peu si on est capable d'en faire plus. Mais sinon... On sera pas chié, là. On va juste arrêter cette scène-là, puis on va repartir une autre avec le gros divan au centre de la scène.
Okay.
Ouais. Puis,
je pense que tu vois aussi l'impro comme un outil, tu sais, au sein des entreprises ou...
Entre autres. Ben, c'est un outil de développement humain qui est phénoménal, là, tu sais. Si t'as fait moindrement un peu d'impro dans ta vie, tu sais que t'as déjà moins de problèmes en entrevue. Moi, je fonctionnais sur un dicton que mes parents haïssaient, mais qu'ils m'ont donné raison avec le temps. C'est un CV, un job. J'ai rarement imprimé plus qu'un CV pour aller me trouver un travail.
Wow!
C'est là que je veux travailler, puis je vais travailler là. Mais en même temps, tu te présentes pas comme un grand arrogant. Là. Tu fais juste faire bien tes devoirs, savoir où est-ce que tu t'en vas travailler. Puis l'assurance que t'apporte l'impro fait toute la différence sur comment tu es capable juste de répondre à des questions, comment tu es à l'aise devant le malaise. Tu es capable de le dire qu'il y a un malaise s'il y en a un. Puis tu es capable de le déconstruire, ce malaise-là, pour rendre confortable les gens qui sont là. Je sais pas. Ça te permet d'écouter pour comprendre, pas pour répondre. Tu écoutes les propositions des gens jusqu'au bout.
Ouais.
Fait que, oui, toi et moi, on a peut-être un agenda actuellement dans notre conversation, chacun de notre bord. Toi, tu as ton agenda dans la maîtrise de radio. Moi, je suis le gars qui vient plugger ses affaires. Mais si j'écoute pas jusqu'au bout, ce que tu dis, j'ai l'air d'un gars qui va juste plugger mes affaires. Puis si tu m'écoutes pas jusqu'au bout, t'as juste l'air de diriger une entrevue à un endroit où ça me tente pas d'aller. Fait que
Il y a pas l'échange.
On est mieux de s'écouter. Voilà.
Uh-huh. Qu'est-ce qui s'en vient aussi là, à l'improdôme? Parce que je pense qu'il y a Dr. Subtilo qui s'en vient. C'est quoi les prochains événements?
Le Dr. Subtilo, c'est mon nom de gamer. D'ailleurs, j'ai envie de braguer que je suis arrivé un petit deux minutes en retard parce que j'ai clenché une win à Warzone juste avant d'arriver avec le sergent Leblanc qui va être là justement cette soirée-là du Dr. Subtilo.
L'assassin de Poupou.
Ouais,
enfin,
ceux qui écoutent, là, je vais vraiment faire ma plug. Là.
Vas-y.
Les soirées du Dr. Subtilo, c'est moi qui gamais pendant la pandémie énormément avec d'autres joueurs d'impro. Puis à un moment donné, on était quatre. Charles-Étienne Beaune, Vincent Dargy, Sébastien Leblanc, puis moi. Puis à un moment donné, on pleurait de rire en jouant à un jeu qui s'appelle Human Fall Flat. Puis on s'est dit, hey, nous quatre, cabochons sur une scène, ça serait tellement le fun. Fait que là, est née l'idée que j'allais faire des soirées du Dr. Subtilo. Parce que généralement, dans mes spectacles de ma compagnie, je produis, j'anime, je ne joue pas.
C'est ça, t'es pas sur scène.
C'est ça. Ben, je suis dans l'ombre ou sur scène, sur le side,
à ma
manière. Mais là, j'ai vraiment envie de beaucoup de jouer à l'impro. Fait que les soirées du Dr. Subtilo, c'est dédouané, c'est moi qui joue des essais, des erreurs, des affaires différentes. Puis là, vu que c'était dans le cadre des jeux vidéo qu'est née cette idée-là de projet, on va inspiré des mécaniques qu'on se retrouve dans les jeux vidéo, des synopsis de jeux vidéo des années 80, puis des années 90 aussi. Puis peut-être les jeux récents, là, on a chacun un devoir à faire. Chacun des gars qui arrivent sur scène arrive avec un synopsis de jeux vidéo, avec une cinématique d'un jeu vidéo, puis une mécanique d'un jeu vidéo, genre qu'on peut ramener des gens à la vie, le looting, le lag, le lobby de départ. On va se lancer des défis à tour de rôle qui vont être inspirés de la mécanique des jeux vidéo. Mais les autres soirées du Dr. Subtilo, ça va être d'autres affaires, justement, comme Gros Divan ou un spectacle sans issue où la scène est au centre, tous les spectateurs sont autour. Les joueurs n'ont pas le droit de se parler jamais. En dehors de la scène, tout ce que tu fais sur scène est vu. Tu peux pas te revirer pour réfléchir. Tu as toujours du public face à toi, peu importe où est-ce que tu es.
Tout fait partie du show. Il n'y a pas de commentaires entre les impros.
Non, en théorie, non.
OK, théorie.
Faudrait trouver la mise en scène est encore à crafter, mais c'est ça.
OK.
Ouais.
Là, après 10 ans, Turbo, on vous souhaite quoi pour l'avenir? Est-ce que ça bouge un peu? Bon, il y aura l'air clim dans la salle, mais
oui,
à part ça...
Oui, ça s'en vient, ça a été signé. Je suis bien content. Turbo, je pense que ça va continuer son petit bonhomme de chemin comme celle-là, avec de plus en plus de jingles vidéo.
Oui.
Parce que c'est moi qu'il faut qu'il y ait la volonté de les faire, de me lever le matin et de me dire « Aujourd'hui, je fais du motion design. » Quoique ça va bien, là, j'ai comme repris les devants là-dessus. La pandémie m'a fait en fait que j'ai pas taponné là-dessus, puis tu sais, j'étais un autodidacte dans bien des domaines, là, fait que le motion design, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis capable d'en faire quand même bien, là. Fait que c'est de me lever puis de les faire. Où est-ce que j'amène ça? Je sais pas. Je suis rendu qu'on joue les vendredis aujourd'hui, on est content. Avant, on a toujours joué les lundis, puis on arrivait à faire des bonnes salles à feu le cercle à l'époque.
C'est vrai.
On avait une bonne moyenne de spectateurs, mais là, de déménager les vendredis, il y a plein plein d'affaires à faire les vendredis, mais ouais. Nous, on...
Ça se remplit.
Mais c'est le fun, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est des super belles salles. Puis l'impro dôme, c'est la suite logique de mes projets. En fait, c'est plus là que ça va que Turbo. Là.
Ouais.
Le club d'impro, moi, j'ai entre 300 et 400 événements par année à travers mon école.
C'est énorme.
Ouais, 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 c'est beaucoup. Puis c'est entre mon école d'impro, les spectacles récréotouristiques, le corporatif, puis les spectacles grand public, comme tu es venu voir, ben, j'étais rendu à un besoin d'avoir une salle.
Ouais.
Puis j'ai créé un OBNL qui est l'impro dôme, là où on tient nos spectacles. Puis oui, je fais mes affaires là-dedans, puis il reste des dates de disponibles. Fait que là, je book des shows d'humour, d'autres shows d'impro, des shows d'humour improvisé. Je teste des affaires. C'est vraiment un local. Somme toute modeste, mm-hmm. Je pense bien. C'est pas le nec plus ultra. On n'offre pas méga service dedans, mais ça reste que c'est abordable comparativement aux autres salles de la ville. Puis on a quand même, je pense, un look professionnel, ouais. Somme toute. Je suis trop collé dessus pour en avoir une opinion qui est juste.
Vraiment, regard objectif.
Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en fait, c'est plus le club d'impro puis l'impro-dôme. Qu'est-ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un lieu d'essai d'erreur où les gens sont conscients de ce qu'ils viennent voir. Puis pour l'instant, tu as vu, on est juste affiché sur le mauvais bord de rue.
Ouais.
La porte, tu sais pas c'est quoi qui se passe là.
C'est vrai.
Puis c'est un peu volontaire. Oui, si mettons on avait vraiment beaucoup d'argent, puis j'avais beaucoup de temps, sûrement je ferais une belle affiche pour la porte. Mm-hmm. Mais en même temps, ça me fait bien rigoler que les gens cherchent le lieu.
Oui.
Puis que ben on se ramasse juste avec du monde qui a envie de voir de l'impro.
Ah oui.
Il y a pas 4 dudes qui arrivent pour se siffler 6 pains de chaque puis se ramasser bien chaud à la fin du spectacle parce que eux, c'était leur bar préféré où est-ce qu'ils avaient l'habitude de se virer ski.
C'est vrai.
Là, c'est juste.
C'est le lieu de l'impro,
c'est
seulement.
Juste des gens qui viennent voir de l'impro, fait que c'est hyper respectueux. T'sais, puis même justement par rapport à ça, Dr. Subtilo, vendredi, puis samedi, on a les soirées bœuf. C'est après les spectacles de fin de session de l'école qui eux ils commencent à 8h puis vers 9h30 10h, c'est les bœufs, c'est l'équivalent d'un karaoké mais pour l'impro.
Ah.
Fait que c'est des tu mets ton nom dans le chapeau, si ton nom est tout seul, je te mixe avec quelqu'un d'autre pour commencer une impro avec un thème donné par la foule, ou si ton nom est écrit avec d'autres noms, ben je fais OK, ben alors Audrey, Anne, Andréane, Julien et Samy, vous êtes sur scène les quatre, on vous donne un mot, puis là vous jouez votre scène pendant 2, 3, 4 minutes, jusqu'à temps qu'elle se dégonfle un petit peu. Je laisse pas cracher. Si l'impro lève pas, puis je suis conscient que c'est des gens qui débutent là-dedans,
oui.
Je mets une pause à l'impro, je pose une question en disant répondez-y en jouant, répondez-moi pas maintenant.
Essayez de diriger l'impro ailleurs.
Ouais, pour comme donner des pistes de réflexion, ton personnage veut quoi, ou où est-ce que vous êtes, définissez ça, tatata.
Ah, c'est bon, il y a une forme d'entraînement là-dedans.
Ouais, exact. Puis les gens qui sont là, qui regardent, c'est des gens qui sont dans la même démarche que toi.
Ouais.
Fait qu'ils vont venir voir d'autres gens se commettre à un exercice, mm-hmm. qui est très difficile pour eux à ce moment-là.
C'est vrai.
Fait qu'il y a personne, tu sais, il n'y a pas de heckler, il n'y a pas de gens gossants qui n'ont pas d'affaires là. Tu sais, dans un karaoké, tu peux te faire donner de la merde, mais en même temps, ouais. t'as le pouvoir du micro puis de la musique pour enterrer tout ça.
Mm-hmm.
Mais avec l'impro, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de micro. C'est à capella, c'est à froid.
Oh ouais.
Fait que les gens qui sont devant toi à ce moment-là, pendant le bœuf, ben, tu sais, prennent soin de toi.
Oui.
Si ton impro est tough puis tu réussis à toucher de quoi d'intéressant,
alors ils vont réagir.
Le public va te le dire que ça fonctionne à ce moment-là. Ouais. Fait que voilà. Ouais, ouais, puis c'est ça que je veux créer, moi, avec l'impro dôme, c'est réussir à créer une espèce de communauté qui assume des formats alternatifs. Oui, il y aura une place pour le match, mais mm-hmm. Je pense qu'il y a vraiment. Il y a vraiment plus de fun à y avoir ou plus de découvertes à faire dans d'autres types de formats que le match d'impro.
Oui.
Voilà.
Donc, forme alternative,
ouais.
Place à l'erreur, communauté soudée.
Je le souhaite, ouais.
C'est ce que j'ai senti, en tout cas, si c'est ça l'objectif, ça c'est réussi.
Oui, oui, oui.
Ouais. Merci beaucoup, Olivier.
Ça fait plaisir, merci à toi.
Bravo pour ces 10 années.
Merci, merci, merci.
Et puis, ben, ce vendredi, Dr. Subtilo.
Les soirées du Dr. Subtilo, c'est sur le point de vente ou sur clubdimpro.com ou sur notre page Facebook ou sur la page Facebook de l'Impro Dôme.
Excellent.
Ou pour les débrouillards, vous allez trouver la porte puis vous allez apporter de l'argent en cash.
Yes.
C'est ça.
Oui, trouver la porte, c'est un jeu d'évasion à l'envers, se rendre
ouais,
à l'Impro Dôme.
Vraiment, vraiment, vraiment. Bonne chance.
Excellent. Ben, un gros merci. On poursuit en musique.
Salut.
On
se retrouve bye bye.
Après la pause. Bye.
Jour et nuit. mélange, je suis en état d'âme, je suis bien habile. Je te connais du bout du doigt. Je suis la raison de ton détour, je suis quelqu'un de magnétique. T'es toujours pour moi de la belle grande visite. Même quand tu l'es même pas. C'est moi qui se donne dans les plus grands rôles. Oh, on parle toujours des mêmes. Encore et toujours les mêmes. Encore des matins, encore des matins, encore des matins, encore des.
On est de retour sur les ondes de Chiz 94.3 à Chérie, j'arrive. On s'en va du côté de Bellechasse parler à Rosalie Bocage. On s'informe aujourd'hui de culture, mais au sens large, de culture maraîchère. Allô Rosalie, comment ça va?
Allô Andréane, ça va bien toi?
Ça va bien, merci. Rosalie, moi je te connais comme illustratrice, comme femme de lettres, mais on pourrait te connaître aussi comme femme, de jardin?
Déjà, oui, on peut dire ça comme ça. C'est sûr que j'ai, j'ai une formation en littérature puis je fais de l'illustration aussi, mais depuis 5 ans, je travaille les étés en agriculture, donc je fais des saisons dans le domaine de l'agriculture. Là. Bien que j'ai pas étudié là-dedans, c'est le fun parce que c'est un domaine dans lequel on peut être pas mal autodidacte, là, puis d'avoir envie puis de se donner à fond parce que c'est ça demande beaucoup de travail puis ça, c'est aussi une vocation. Là.
OK. Ouais. Rosalie, là, c'est le début d'une collaboration, on peut dire, là, on va se reparler une couple de fois cet été, probablement chaque semaine pour voir ce qui se passe sur la ferme. On va faire quoi avec cette chronique-là? Moi, j'ai envie de démystifier une couple de choses sur la culture maraîchère, mais c'est quoi tes intentions quand tu m'as approché avec cette idée-là de chronique?
Ben oui, c'est ça. Donc, on essaie vraiment quelque chose. Là. Je pense que c'est ça, parler de culture, agriculture, c'est rare que ça rentre là-dedans, mais je trouve que c'est le fun de l'intégrer. Moi, en fait, je t'ai approchée parce que j'avais envie cet été, puis c'est ma deuxième année ici. Moi, je travaille sur une ferme, une petite ferme. En fait, c'est une herboristerie à Saint-Michel de Bellechasse, dans Bellechasse.
La Maria.
La Maria, pour oui, de son prénom. et puis, je me disais, ça serait le fun de faire une chronique sur l'agriculture à Chiz, mais pas une chronique du genre comment planter vos plantes de tomates.
Non, ça, il y en a de la ressource, là.
Ça, je pense que c'est ça. C'est accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Ouais. Puis voilà. Mais je me disais, ça pourrait être intéressant de faire une chronique plus du type journal de bord d'une ferme, tu sais, que l'espèce d'aspect hebdomadaire qu'on se rencontre une fois par semaine, parce que les auditeurs, en fait, ils peuvent avoir une idée de ce qui s'est passé cette semaine-là sur la ferme ou cette journée-là en particulier, pour avoir une espèce d'œil, une fenêtre sur comment ça se passe dans une entreprise en agriculture, qu'est-ce qu'on cueille au fur et à mesure de la saison, c'est quoi les enjeux par rapport au climat, etc.
Okay,
parce que je pense que c'est pas c'est ça, c'est y a beaucoup de gens qui moi j'ai tendance à l'oublier parce que c'est ma réalité, mais il y a beaucoup de gens qui ont jamais mis les pieds sur une ferme, en fait.
C'est vrai. Ouais. Bon, moi, je viens du lac Saint-Jean, j'en ai vu des vaches, mais ça veut pas dire que je connaissais tous les légumes racines avant de te rencontrer, Rosalie.
Non, mais c'est sûr que c'est tellement large comme domaine. Moi, je suis dans cette chronique-là, je pense que je vais parler de mon expérience très personnelle et terre-à-terre, là, du au jour le jour, tu sais, sur la ferme sur laquelle je suis. Mais c'est ça, il y a toutes sortes de grosseurs de fermes, toutes sortes de types de cultures. Voilà.
Je pense que ça va nous permettre aussi de mieux comprendre tout le travail qu'il y a derrière l'assiette. Parce que
exactement, ouais.
J'ai vraiment plus de respect pour mon concombre depuis que j'ai vu comment ça pousse.
Mais... oui, ça, c'est sûr. Puis ça aide à reconnecter vraiment avec un aspect ultra concret, là, de... ultra concret qui est notre alimentation, tu sais, mais vraiment, pour moi, en tout cas, qui vient d'un domaine, du domaine des lettres où c'est beaucoup, on est beaucoup dans la tête, c'est beaucoup intellectuel, là, quand je tombe en agriculture l'été, il n'y a pas plus concret qu'avoir les mains dans la terre, puis arracher les mauvaises herbes, puis s'assurer que les plants meurent pas de soif, tu sais.
Tout à fait. Alors, ta semaine, Rosalie, ton cahier de bord à la Maria, ça ressemble à quoi pour, à ce moment-ci de la saison? Parce que j'imagine que les semences, c'est pas mal terminé ou?
Ouais, mais en fait, c'est ça, peut-être que je peux vous parler un peu de la Maria, la ferme où je suis, parce que c'est quand même particulier dans le sens où on est une herboristerie.
Oui.
Fait que, qu'est-ce que ça fait, une herboristerie? Ben, on produit beaucoup des plantes médicinales.
OK.
Donc, c'est beaucoup des on va avoir des fines herbes que tout le monde connaisse, là, donc romarin, thym, etc., qui ont par ailleurs des propriétés médicinales. Mais on fait beaucoup donc de plantes à feuilles, mais aussi des fleurs. Puis on a un peu de légumes là qu'on vend au marché de proximité à Québec. Mais le légume, tu sais, on fait de la tomate, du concombre, céleri, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Fait que le gros de nos productions, c'est vraiment des plantes qui sont destinées à soit faire des produits médicinaux, donc comme des onguents. On a les bombes décontractants, par exemple, des choses comme ça. Sinon, des teintures mères aussi. Là, c'est une teinture mère, c'est peut-être pas clair pour la plupart des auditeurs.
Ouais, je suis en train de pisser les sourcils.
Ouais, donc une teinture mère, en fait, c'est une macération d'une plante médicinale dans l'alcool ou ça peut être de la glycérine ou du vinaigre de cidre. Et puis, la macération permet aux propriétés de la plante de se transférer dans le solvant. Puis ça, après, ben, ça, c'est utilisé, c'est utilisé quotidiennement pour différents types. Ça peut être pour le rhume ou pour faire une cure du foie ou dépendamment de la plante qui est utilisée.
OK.
Fait que c'est ça en gros, mais notre principal volet, je te dirais que c'est de fabriquer des tisanes. Donc on fait sécher beaucoup de plantes pour faire des belles tisanes qui sont on est le principal fournisseur de tisanes de la maison de thé le Camellia sinensis.
Ah oui, on le connaît bien à Québec.
Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, l'année passée, là, on leur a envoyé genre 460 kilos de tisanes. Et quand on s'imagine, tu sais, les tisanes, c'est des plantes sèches, ça pèse pas beaucoup.
Ça pèserait.
Donc, pour 460 kilos, là, ça en fait beaucoup. C'est ça.
OK, ça chôme pas, la Maria.
Non, ça chôme pas. Non, ça, c'est clair. Fait que c'est, en gros, c'est le portrait de notre ferme. C'est, on est une petite équipe. Mais on est environ 5 temps plein. On peut être jusqu'à 10 sur le terrain durant l'été.
Alors, ça nous laisse un bon topo de l'endroit où tu te trouves, de ton background, de ce à quoi ressemble ton travail cet été, Rosalie. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous jaser. C'est la première, là, donc c'est une intro, une petite incursion dans ton monde. La semaine prochaine, tu penses que tu vas en être où dans le carnet de bord? On pourrait s'attendre à parler de quoi quand on se rejase?
Ben, la semaine prochaine, écoutez, là, c'est ça, j'ai parlé de c'était quoi la ferme, mais on commence tout juste nos premières récoltes. Il y a beaucoup plus ce printemps. Ça a été un super printemps pour faire des implantations de culture, en tout cas pour nous, parce que il y a plu, il y a fait soleil, donc ça permet de planter les choses au champ puis qu'il y ait assez d'eau pour bien s'adapter au changement. Mais là, depuis cette semaine, là, il a commencé à faire beau, deux journées qu'il a fait beau, puis là, on commence les cueillettes. Fait que, d'après moi, la semaine prochaine, dépendamment de la météo, c'est ça, ça change toujours avec la météo, les tâches qu'on fait, mais d'après moi, je vais pouvoir commencer à vous parler de nos récoltes, en fait, puis de notre séchoir, parce que ça, c'est une partie très importante de notre endroit, où on fait sécher toutes nos petites plantes.
Excellent. On passe en mode résultat la semaine prochaine.
Oui, c'est ça déjà. au deuxième mois de la saison.
Excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben, merci, Andréane. Bye, à la prochaine.
On passe en pause publicitaire et on est tout de suite au retour avec Sébastien Delorme. À tout de suite.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Oh, petit scoop, vous avez déjà entendu un extrait de ce pourquoi je reçois Sébastien notamment.
Oh yeah.
Sébastien Delorme, bonjour.
Bonsoir.
À ne pas confondre avec la vedette de la télévision, on me dit.
La vedette de District 31, qui n'est pas moi. Anciennement vedette de Ouattatata, quand j'étais jeune. Yannick, le chum à Stéphanie Couillard.
Ah, alors pour les nostalgiques...
Pour les nostalgiques, ce n'est pas moi, mais je peux peut-être l'évoquer par mon nom, évoquer ce souvenir, ce doux souvenir.
Ce doux souvenir. Sébastien, moi, je te reçois en tant que musicien, là.
Yes.
Pas en tant que sosie d'une vedette télé. On te connaît parce que tu es dans le projet de Mon ami Souffrance.
Yes.
Dans les Saint-Martyrs aussi, qu'on connaissait autrefois avant cette transition divine.
Oui, la canonisation.
La canonisation.
La résurrection.
Comme les martyrs de Marne.
Oui.
Alors, voilà, on pourra en reparler de la canonisation. mais je te reçois pour discuter des 30 ans du Centre Jacques Cartier, qui revêt une importance pour toi, autant d'un point de vue social que musical.
Ouais.
Pour le 30e anniversaire, il y a une fête en fin de semaine, une parole à donner. L'événement a lieu le 17 et 18 juin. Il y a des spectacles, donc à partir de 20h30, là, ces deux journées-là, on peut voir notamment Flavie Dufour, Simon Lachance, Jérôme Casabonne et Mon ami Souffrance.
Yep.
Alors, oui, je voulais parler du spectacle, mais je voulais aussi parler de l'importance qu'a eu le centre pour toi. Donc, j'imagine que c'est pas étranger au fait que tu viens jouer là samedi.
Non, c'est sûr que non. Je pense que pas mal tout le monde que je connais qui va jouer ce soir-là, ben, je connais bien Jérôme, c'est un de mes bons amis. Il y a Simon puis Flavie aussi que je connais. C'est tous des gens qui ont été liés au centre de près ou de loin. Vu que c'est un centre communautaire, ben c'est beaucoup basé là-dessus. Les rassemblements, c'est beaucoup des gens qui ont été touchés d'une façon ou d'une autre ou été impliqués ou aidés par le centre. Là.
Okay. Tu dirais que ça a joué quel rôle pour toi, le centre?
Moi, le centre m'a sauvé la vie. Là. Dans le fond, moi, j'ai eu des très sévères problèmes de toxicomanie plus jeune, couplés avec des problèmes de santé mentale qui était très envahissant, qui me donnait beaucoup de difficultés à m'adapter au monde autour de moi. Là. Ça a duré pas mal la majorité de ma vingtaine, dans le fond, ma jeune vie d'adulte et presque jusqu'à la trentaine. Là. Donc, quand j'ai réussi à me soigner avec l'aide de thérapie, tout ça, ben, je suis allé habiter au centre parce que c'est une approche qui n'est pas en toxicomanie particulièrement. Là. C'est pas un centre de désintox ou quoi que ce soit du genre. C'est plus un centre qui est comme... C'est l'approche milieu de vie. Dans le fond, c'est très global comme approche. Moi, j'ai habité là pendant 6 ans. Tu peux t'investir de toutes sortes de façons, de toutes sortes de plateaux, des jardins communautaires, du cirque. Il y a une salle de spectacle qui est le Dôme, anciennement le Tam Tam Café.
Oui.
Moi, j'étais sur le conseil d'administration pendant quelques années. Il y a toutes sortes d'événements pour les jeunes, toutes sortes d'ateliers. Un atelier d'ébénisterie aussi que j'ai fait. C'est tout des trucs qui te permettent de... Puis c'est comme une communauté, dans le fond, qui est comme très vivante. Là. Il y a des milliers de personnes qui sont touchées par ça chaque année, qui passent par là ou qui habitent là. Donc, ça te permet... C'est comme une communauté un peu artificielle, si on veut, qui est créée à la façon des services sociaux, dans le fond, avec le soutien des services sociaux. Il y a des intervenants sur place qui sont des agents de qui, si on veut, facilitateurs de rencontres et de projets. Puis ben à travers ça, ça te permet un peu de, je sais pas comment dire, te pratiquer à la vie en communauté et en société. Quand t'as peut-être des challenges qui font que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Moi, j'avais des problèmes qui étaient de toutes sortes de natures. Là. Des fois, je pouvais être quand même difficile, on va dire ça comme ça, dans mes rapports avec les autres. Puis tu sais, je pense que toutes sortes de gens, j'ai une de mes amies qui avait plus des problèmes de schizophrénie, tout ça. Tu sais, Jérôme Casabon, dont tu as parlé, il habitait là aussi, mais lui, tu sais, c'est de la marginalité sous toutes ses formes. Il y a des gens que c'est plus des problématiques de santé, il y a des gens que c'est plus, Jay est musicien, donc tu sais, c'est une vie alternative. Ouais. À la vie 8 à 5 traditionnelle. Fait que, tu sais, ça permet à tous ces gens-là qui sont un peu marginalisés de vivre ensemble et de, comment dire, de fleurir, de sentir de l'appui. Puis aussi, ben, vu qu'il y a de l'intervention, ben, ça te permet de permet à des gens qui auraient peut-être plus de difficultés. Tu sais, moi, après ça, je suis allé voir le Pantoum. Tu connais le Pantoum, évidemment.
Très bien.
Mais le Pantoum, c'était pas un organisme communautaire, c'était plus une communauté organique de musiciens. Mais moi, j'aurais pas pu aller là directement plus jeune parce que c'était trop complexe pour moi, les rapports interpersonnels. Puis, tu sais, de toute façon, ben, j'étais intoxiqué out of my fucking mind, comme on dit. Fait que, mais ça m'a pris un temps après ça, m'habituer aux rapports aux autres. Puis, c'est un bon endroit pour comment dire. C'est comme un incubateur de communauté pour pratiquer les gens à devenir aptes socialement, puis aussi à monter des projets qui sont à leur hauteur, puis, tu sais, à leur rythme au fur et à mesure. Mais. Pour vrai, moi, je connais quand même beaucoup d'organismes. Je fais plusieurs thérapies aussi, tout ça. Puis c'est vraiment...
Il y a quelque chose de spécial.
Ah oui, vraiment. Puis c'est très vaste aussi. Donc, c'est pas... Je sais pas comment dire. Ça opère pas juste à un niveau. Là. Mm-hmm. C'est vraiment global. Puis moi, ça m'a... Tu sais, je dirais que si j'avais pas le centre, je serais dans le struggle quand même pas mal en ce moment. Là. Ça m'a vraiment aidé. Puis tu sais, c'est parce que ça te permet de te donner une chance aussi de... Tu peux faire des erreurs là-bas, là. Tu sais, ils comprennent ça parce qu'ils comprennent les challenges que t'as, puis tout ça, là. Fait que...
Dirais-tu que c'est par le centre que t'as découvert... que t'es devenu musicien, que t'as découvert cet attrait-là pour la musique, ou ça avait toujours fait partie de toi? Tu sais, le centre, est-ce que ça a joué un rôle dans ta carrière?
En fait, moi, je fais de la musique depuis que j'ai à peu près 11 ans, là. Ça a toujours été dans ma vie, là, très présent. Je compose de la musique depuis que je suis ado, mais j'ai toujours eu des bands, tout ça. Mais c'est sûr que depuis que j'ai arrêté de consommer, que le centre m'a aidé, ben ma musique a rayonne beaucoup plus parce que je suis juste plus capable de la communiquer aux autres, parce que je suis plus capable de communiquer aux autres,
tout
simplement. T'sais, j'ai toujours fait de la musique, mais ça restait à mon groupe d'amis proches. J'avais beaucoup de difficultés à aller plus loin que ça. Puis, en fait, je joue encore avec des musiciens qui me connaissent depuis le début du secondaire, qui m'ont vu avant, pendant et après cette période-là de difficultés. Fait que, tu sais, mes amis sont restés là, mais je pense qu'aujourd'hui, vu que, tu sais, moi, je compose beaucoup dans mes bands, j'ai quand même un certain rôle de leadership, puis ça me permet d'être, je sais pas, ça permet aux bands d'être beaucoup plus capable de connecter à un public, puis de rayonner, là. Vraiment, là, le fait que je sois juste plus capable moi-même de faire ça, là, fait que...
Oui, donc ce que tu as développé au centre, c'est des choses que tu. Comment dire? Qui te servent après ça dans ta carrière, dans la vie de tous les jours. Tu as pu transposer ça hors du centre.
Absolument, dans tout. Puis vu que la musique, ben, c'est mon quotidien, là. Je fais de la musique tout le temps, ben, puis où ben, je suis dans ce monde-là, là. Grosso modo, ben, ça m'a juste permis d'être meilleur dans ça, puis de juste. Comment dire ça? Ben, je pense que je viens de bien l'expliquer. Ça l'a facilité la connexion avec le monde autour, là. Ouais.
Excellent.
Yes.
Là, c'est Mon ami Souffrance qu'on va entendre samedi pour la fête.
Ouais.
Comment ça se passe de ce côté-là? Nouveauté, on vous entend où cet été?
Dans le fond, pour l'instant, on n'a pas encore de shows qui sont comme canés, mais on a quand même plusieurs prospects dans le coin du Saguenay, Trois-Rivières, à Montréal aussi. Puis dans le fond, on sort un EP à l'automne qui s'appelle Club Social, parce qu'on est un club social. Comme je dis, ça fait 20 ans que je fais de la musique avec certains des boys dans le band, fait que pas mal à toutes les semaines, donc c'est pas mal un club social. Puis, c'est sûr, on a quand même fait une couple de shows à Québec récemment. Ça s'est super bien passé. On est vraiment contents. Oui. On sent vraiment qu'il y a comme une connexion qui est profonde. Là.
On vous a vu au petit off.
Puis on a joué au Nuit Psychédélique après. C'était tout aussi, je sais pas, c'était un vraiment beau moment pour tout le monde. Ouais. Ça fait vraiment du bien de voir qu'on réussit à reach out comme ça. Mais c'est ça, on a le EP qui sort, on va avoir des clips qui sortent, on a Gab Lapierre de Crabe qui va en faire un. Moi, je vais en faire un aussi. Ça, c'est une première pour ce band-là. Wow. Puis, c'est ça, on vient de faire un photo shoot avec les filles d'Agrume, juste ce PM. Là. J'arrive juste avant qu'on se voit. Fait qu'on va avoir des photos. Là. C'est pas comme le cœur de notre art, mais c'est toujours le fun de
développement.
Ouais, puis de je sais pas, de faire travailler le monde autour de nous, de collaborer avec, tu sais, la communauté autour qu'on aime tellement puis qui fleurit tellement tout le temps puis qu'on à chaque jour c'est un renouvellement de bonheur de voir ça fleurir comme ça là fait que...
puis les Saint-Martyrs.
Oui.
Là, vous venez de sortir déjà un premier titre, une collaboration avec Kit Kuna.
Oui, puis Rox Arcan de Enfants Sauvages. C'est d'ailleurs encore Gab Lapierre de Crabe qui a fait le clip qu'on aime beaucoup. Saint-Martyr aussi, c'est la même chose. On a un album qui sort à l'automne. On a été signé sur Folivora. On a eu des gros bidous quand on a eu 50 000 balles du gouvernement l'an passé pour faire un album sous le nom des Martyrs de Mar de l'époque. Je pense qu'on est bon pour écrire nos shit, mais pour bien vendre notre salade. Ouais. Mais on a des belles collabos. Je pense que le changement de nom aussi était comme un peu un mouvement organique vers une identité un peu plus fluide puis un peu plus vaste. Mm-hmm. Tu sais, on a des collabos, on a genre Lou Adriane qui chante une chanson, on a fucking de l'électro avec Zara Dion de Montréal sur des tracks, on a encore des tracks de Noise Weird avec il y a Rémi Bélanger de Beauport qui est à Québec qui est sur une track. Et tu sais, ça ratisse vraiment plus large. Il y a genre, tu sais, autant genre de l'électro, des tunes soft, des quatuors à cordes que genre du gros black metal. On a aussi des tunes, tu sais, avec des refrains plus pop, tout ça, ça va vraiment dans beaucoup de directions. Ouais, on sent qu'il y a quand même une cohérence là-dedans, puis on est vraiment fucking fiers de ce qu'on a fait, là.
Wow.
Je sors de sortir d'autres affaires, puis de faire des shows. On est en train de se booker ça avec le monde de Dose, là, qui nous ont signé pour le booking. Là, on travaille au lancement. Ça va être genre quelque chose genre octobre-novembre, là, mais il va y avoir du mouvement d'ici, là, c'est sûr. Là.
Ben moi, ça me donne hâte de voir ça exister dans le monde. Là.
Ouais, nous, on a hâte aussi de le jouer devant le monde, hein, clairement. Là.
Génial! Yeah. Sébastien Delorme, le musicien, merci pour ta présence.
Ça fait plaisir.
Ça nous fera plaisir d'aller te voir sur le top du Mixbus, peut-être,
sur le dessus d'un autobus, incroyable. Une première pour nous autres, c'est vraiment cool.
Ben, all right. Alors, jouez sécuritairement.
Oui. On joue assis, là, fait que on est vieux.
C'est vrai,
là.
Ouais.
On est mi-trentenaire. Là.
C'est assis.
Là, je dis ça, avec les martyrs, on joue debout puis on démolit tout, mais.
Ça y va.
Non, mais on joue assis, ça va bien se passer.
Excellent. Là. Merci pour ta présence puis bon show vendredi.
Merci.
Bye.
Ciao.
De retour sur les ondes de Chiz 94.3 à Chérie, j'arrive. On vient d'entendre Mon ami Souffrance qui sera en prestation, je le rappelle, ce vendredi au Centre Jacques-Cartier. Le spectacle est gratuit. On vous invite à faire une contribution volontaire en achetant vos billets pour contribuer à la mission du Centre. J'ai en studio... Une strophe en cavale. Émile Boivin, bonjour Émile.
Salut Andréane, j'ai l'impression que ton visage me dit quelque chose.
Oui, alors Émile, auparavant on chroniquait ensemble pour les deux strophes en cavale.
Ben oui, en effet.
Question de faire les actualités poétiques de la ville de Québec. Alors j'ai changé de place là au micro,
oui.
Mais je suis encore au courant de ce qui se passe en poésie.
Oui,
va
en
dire.
Effet, on s'en cachera pas.
Alors qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui?
Ben, premièrement, je ferai un petit retour sur la dernière chronique que j'avais fait avec,
avec Félix.
Avec Félix, on le salue et on remercie d'ailleurs encore une fois. Camille Paré-Poirier, j'avais parlé de son recueil « Dis merci » qui avait été un gros coup de cœur pour moi.
C'est vrai.
Et puis, figurez-vous que le 1er juin dernier, elle a été la première lauréate de la première édition du prix de poésie des cégepiens et cégepiennes pour son recueil « Dis merci ». Alors, j'étais content. Je me suis dit peut-être que j'ai du flair, finalement.
On dirait que t'as du goût.
Donc, gros félicitations à Camille Paré-Poirier. Et encore une fois, je le recommande encore à tous et à toutes.
Hein, fait qu'il n'y avait pas de prix poésie pour les cégepiens. Il récompensait toutes les autres catégories.
Exact. Alors, on espère que ce prix-là dure et qu'il s'étende.
Percée poétique chez les cégepiens.
Exactement. Il n'y a pas que Baudelaire. Hein?
Ouais, non. Il y a aussi Camille.
Exact.
Ah, merci pour ce retour-là.
Ça fait plaisir. Sinon, ben, au niveau de l'actualité poétique, pardon, j'allais dire politique.
Hein, ah, la poésie est politique. Oui,
ouais, la poésie est politique. Donc, on a le vendredi, le 17 juin, c'est vendredi cette semaine, Conte à faire rougir les fraises. C'est à la bibliothèque Félix Leclerc à 13h. Donc, l'événement, comme il se décrit, pour commencer l'été, laissez-vous entraîner dans une ambiance littéraire coquine autour de contes traditionnels québécois à faire rougir les fraises. C'est avec la conteuse Yolaine Carrier. Quand j'ai regardé sur l'événement tout à l'heure, là, il restait seulement 28 places de disponibles.
Ah, bon.
Alors, on fait vite si on veut des billets. Les réservations, ça peut se faire directement sur les sites de Bibliothèque de Québec, donc au www.bibliothèquedequebec.ca. On recherche l'événement. C'est la bibliothèque Félix Leclerc.
Un événement coquin organisé à la bibliothèque pour faire rougir les fraises.
Exact.
OK. Moi, je suis intriguée.
En effet. Moi avec. Sinon, le 15 juin, du 15 juin au 21 août, c'est le début de l'exposition Le temps d'un poème à l'espace du 400e, donc au quai Saint-André.
Ouais.
Le lancement de l'exposition, ce sera le 18 juin. Il y aura une lecture publique de Laura Doyle.
Ah oui, qui a écrit Cœur Yo-Yo.
Oui.
Ah, oui. Oh, j'ai adoré ce recueil-là.
Je ne l'ai pas encore lu, là, malheureusement, mais là, j'ai vu l'événement puis j'ai regardé un peu sa bibliothèque. Donc, ça va être mes prochaines lectures. Je pourrais vous en parler au courant de la prochaine.
Le recueil est dans la bibliothèque de votre coloc. Vous pourriez lui
exact,
emprunter.
C'est ça. J'ai regardé ça. Le temps d'un poème, ça propose une rencontre créative entre l'art des mots de la poésie et l'art séquentiel de la bande dessinée à travers les illustrations originales de 6 BDistes et les poèmes d'auteurs et autrices québécois et québécoises. Les citoyens et citoyennes sont conviés à s'imprégner par la beauté de ces œuvres réinventées. Donc, moi, j'ai un petit faible pour la bande dessinée également. Donc, clairement, je vais aller faire un petit tour là-bas.
Ouais, j'aime ça qu'on mixe ces deux univers-là. OK.
Et là, bon, le 18, c'est une grosse journée parce qu'il y a à la fois le lancement de cette exposition-là avec la lecture, mais il y a aussi les poésies lunaires dont on avait reçu le collectif BDR.
Tout à fait.
Bestiaire des Ruelles, c'est au Parc Sauvageau le 18 juin également. Il y a le marché des artisans puis les jams entre 13h30 et 18h30.
Ah.
Donc, on pourrait y voir Création Légion, Arte Vega, Rituel, Guylaine Derry, Potière, Léane Lefebvre aussi, le Québec et plusieurs autres.
C'est ça, parce qu'on se rappelle que du côté là, du bestiaire des Ruelles, c'est pas que de la poésie, il y a un volet communautaire, artistique.
Exactement. Et il va y avoir justement le volet communautaire et poésie. Uh-huh. Donc, de 19h à 21h, Filaction. En poésie, on va pouvoir voir, entre autres, Anaëlle Turcotte, Véronica Rioux, Morgane Alan Ouellette, Brunette.
Et Émile Boivin.
Oui. Je voulais pas trop m'auto-promouvoir, je me sentais mal. Mais merci de la plug, en effet.
Oui, on va voir la strophe sera sur place, c'est génial.
Exact. Donc, si ça vous tente, je vous y invite. Il y aura Véronica Rioux, d'ailleurs, qui avait gagné le slam poésie.
Slameuse qu'on connaît bien à Québec, oui.
Exactement. Donc, Bestiaire poétique des ruelles qu'on a aussi, qu'on avait reçu à une émission précédente. Oui. Je vois le temps filer, là, je sais pas.
T'avais un recueil, peut-être, j'avais à nous présenter. Livre. Est-ce qu'on a un 30 secondes au moins nous garocher le titre?
Rapidement, pour le mois de la littérature autochtone en juin.
Oh, oui.
Yann Data, L'éternité au bout de ma rue, de Jean Sioui, qui est un poète, mais là, qui fait du récit. C'est beau, c'est touchant, c'est son enfance, c'est un autochtone originaire de Wendake. Yann Data, qui signifie d'ailleurs village en langue Wendat, un rassemblement de maisons longues traditionnelles, beaucoup des souvenirs d'enfance, c'est beau. Les chapitres sont courts, ça se lit bien, des personnages plus grande que nature, je vous le conseille. Alors voilà, c'était rapide.
C'est un fantastique wrap-up.
Ouais.
Émile Boivin, merci pour cette chronique de strophe en cavale.
Merci à toi.
Et on t'entend samedi lire ta poésie avec le bestiaire des ruelles. Merci, Émile.
Merci, Andréane.
C'est déjà la fin de notre émission du jour à Chérie J'arrive. C'était une émission chargée, variée, multidisciplinaire. On a parlé à Émile Lapointe pour la critique de Singulière qui est à l'aborder jusqu'au 29 juin. Pour rire, passer un bon moment et critiquer la pièce ensuite, on vous invite à vous y rendre. Louis-Olivier Pelletier est venu nous parler de Turbo qui célèbre ses 10 ans. Ce vendredi, c'est Dr Subtilo. Le spectacle a lieu à l'Improdôme. Avec Rosalie Bocage, on parle de culture maraîchère. C'est le début d'une collaboration.